Bonjour à tous. Et à la une, ce conseil de défense exceptionnel réuni à l'Élysée sur l'affaire Pegasus après les révélations de France Inter. Et ça continue, on apprend aujourd'hui que le Dalaï Lama était lui aussi une cible du logiciel espion. Et puis en Israël, première réaction de l'entreprise qui a conçu Pegasus, vous l'entendrez. Pour l'adoption express, c'est raté. Les débats sur le pass sanitaire et la vaccination ont déjà pris de retard à l'Assemblée nationale. Nous y serons dans quelques instants. Alors qu'au Royaume-Uni, la multiplication des cas contacts commence à peser sur l'économie, des secteurs entiers au ralenti. Richard Place nous attend à Londres. Dans ce journal également, le premier bilan de la réforme des APL, avec à la clé encore plus d'économies que prévu, le coût astronomique de la pollution sonore en France et les débuts ratés des Bleus aux Jeux de Tokyo, les footballeurs français écrasés ce matin par le Mexique.
France Inter.
Depuis le début de la semaine, on a bien compris que Pegasus était plutôt éclectique dans les cibles choisies, mais on n'en finit pas d'être étonné. Nouvelle révélation France Inter avec la cellule investigation de Radio France et le consortium international de journalistes. Le Dalaï Lama s'est donc lui aussi retrouvé sur la liste des cibles du logiciel. Bonjour Jacques Monin.
Bonjour.
En l'occurrence, le Dalaï Lama dans le viseur de l'Inde.
Oui, effectivement, on savait qu'il était espionné par la Chine. En août 2012, un journaliste canadien avait affirmé qu'il avait quitté l'agence de presse Krina parce qu'on lui avait demandé d'espionner le leader tibétain, mais que l'Inde puisse le surveiller, ça, on ne le savait pas. Alors tout commence en décembre 2017, lorsque le Dalaï Lama va recevoir Barack Obama à New Delhi. Le président américain réserve sa dernière visite officielle au leader tibétain. Il va le rencontrer de retour de Chine. Et ça, ça intéresse grandement le pouvoir indien parce que la Chine, c'est un puissant voisin dont on se méfie et c'est là que va entrer en ligne en lice Pegasus, quelques jours donc seulement avant cette visite.
Oui, sauf que, plus surprenant encore, le Dalaï Lama n'a pas de téléphone portable.
Bah oui, effectivement, et ça c'est un problème, hein, on le comprend pour Pegasus. Le Dalaï Lama a un compte Twitter, il a des sites internet, il a un conseiller à la sécurité informatique, mais lui-même n'utilise pas de portable. Alors les services de renseignement indiens vont contourner le problème, et pour ça ils vont cibler tout son entourage et le transformer en autant de mouchards potentiels autour de lui. C'est ainsi qu'on va trouver dans la liste des cibles les numéros de 6 membres de son gouvernement en exil, mais au total ce sont 17 personnalités qui constituent sa garde rapprochée qui vont être ciblées. On trouve les numéros de téléphone de son assistant personnel, de 3 de ses secrétaires et même son premier ministre Pempa Tsering, alors que ce soit à Dharamsala où le Dalaï Lama réside ou à New Delhi où se trouve son gouvernement en exil. Eh bien, les services indiens avaient donc la possibilité de tout savoir sur ce qui s'y passait.
Jacques Monin, chef de la cellule investigation de Radio France. Merci Jacques. L'affaire Pegasus au menu d'un conseil de défense exceptionnel ce matin à l'Elysée. Après nos révélations des derniers jours, Emmanuel Macron, une partie de son gouvernement sur la liste des cibles potentielles des services marocains. Une affaire suivie de près et prise très au sérieux par le président, selon Gabriel Attal ce matin sur France Inter. Le porte-parole du gouvernement assure que les téléphones du chef de l'État sont changés régulièrement, qu'il existe bien des protections. Pour l'heure, rien n'a filtré de ce conseil de défense qui a débuté à 9h30 ce matin. Et il y a un autre pays où l'affaire Pegasus fait grand bruit, c'est Israël. Israël où est implantée l'entreprise NSO qui a conçu le logiciel. NSO et les autorités locales qui commencent à réagir officiellement ces dernières heures, Alice Froussard.
Depuis les révélations du projet Pegasus, le gouvernement israélien a un objectif, limiter les dégâts, comme l'a timidement déclaré le ministre de la Défense, Benny Gantz.
Les pays qui acquièrent ces systèmes doivent respecter leurs engagements stipulés dans la licence. Nous étudions en ce moment les informations publiées à ce sujet.
Une commission chargée de vérifier les responsabilités dans cette affaire a été mise en place. De son côté, NSO, la société mère de Pegasus, reste dans le déni. Haïm Gelfand, son responsable de la conformité, s'exprimait hier sur la chaîne I24 News.
Le président français Macron n'était pas une cible. Nous mettons en place des processus minutieux afin de décider à qui nous allons vendre nos systèmes. Et parmi ces modalités, nous devons comprendre les procédures en vigueur dans chaque pays pour pouvoir utiliser le système. Et si nous sentons que nous n'avons pas la latitude nécessaire en termes de vue d'ensemble des décisions pour utiliser le système, alors nous ne le vendons pas aux clients.
Chalef Roulio, PDG de NSO, sur une radio israélienne 103 FM l'assure, en 11 ans, il refuse de coopérer avec 90 pays. Pour la société, tout a été fait pour que le logiciel espion ne puisse servir qu'à éviter les actes terroristes et criminels. Tel Aviv, Alice Froussard, France Inter.
Et si vous avez raté des épisodes depuis lundi, l'ensemble du projet Pegasus est à retrouver sur franceinter.fr, bien sûr. Toujours au rayon télécom, mais dans un autre registre, les conclusions du rapport commandé par le gouvernement sur le bug des numéros d'urgence. Et c'est assez sévère pour Orange. Le 2 juin dernier, l'opérateur a mis bien trop de temps à réagir, selon les rapporteurs. Une heure pour prendre conscience de la panne, deux pour en informer les autorités et près de trois pour y répondre. Au total, 12 000 appels n'ont pas pu être acheminés ce soir-là et 6 décès sont potentiellement liés à cette panne. Pour l'éviter à l'avenir, le rapport propose notamment un meilleur système de remontée des alertes et un exercice de crise tous les 6 mois. 18 000 cas avant-hier, 21 000 hier, des taux d'incidence en hausse exponentielle un peu partout. La quatrième vague s'installe, elle s'installe très vite en France, plus vite que les précédentes. Alors sans impact très net pour l'instant sur l'hôpital, on verra dans quelques instants comment s'en sort la France par rapport à nos voisins face à cette nouvelle vague. Mais partons d'abord pour le Royaume-Uni, car là-bas, cette quatrième vague commence à peser sur l'économie à cause de l'isolement massif des cas contacts. 500 000 personnes concernées outre-Manche. Cet isolement a donc des conséquences sur plusieurs secteurs d'activité qui tombent au ralenti, faute de bras. Richard Place est à Londres.
La chaîne de supermarchés Iceland annonce plus d'un millier de salariés à l'isolement. Actuellement, 4% de ses effectifs, conséquence directe, plusieurs magasins fermés. Des ramassages d'ordures et des transports publics perturbés par ces arrêts de travail dans plusieurs villes du pays. Des marchandises qui n'arrivent pas à destination, faute de chauffeurs routiers. Un spectacle annulé au dernier moment dans le prestigieux Covent Garden. Stéphane possède une épicerie-restaurant dans le nord de Londres. Il emploie 17 personnes. L'un de ses cuisiniers a été placé à l'isolement, cas contact de sa colocataire.
Vous vous retrouvez avec moins de personnel, donc les autres gens doivent faire des heures en plus. On a d'ailleurs réduit nos heures d'ouverture de la cuisine. Vu qu'on est ouvert 7 jours sur 7, je pouvais pas demander aux gens de travailler 100 jours de congé. Je suis un peu inquiet d'avoir plus de cas dans mon établissement de gens qui pourront pas venir bosser et qui seront coincés chez eux pendant 10 jours.
Sous la pression d'un patronat désemparé et déjà largement affecté par une année et demie de restrictions, Boris Johnson s'active. Pour le moment, il se contente de présenter des excuses et le gouvernement cherche des solutions rapides. Des exemptions d'isolement pour certaines professions sont déjà envisagées, les soignants et les cheminots notamment. On parle aussi de tests quotidiens pour remplacer le confinement des cas contacts, mais ce ne sera pas mis en place avant la mi-août. Londres, Richard Place, France Inter.
Le Royaume-Uni au cœur de la quatrième vague. Et chez nous, où en sommes-nous donc ? Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Comment s'en sort la France par rapport à nos voisins là, face à cette nouvelle vague, notamment à l'hôpital ?
Eh bien, c'est une vague scélérate, abrupte et brutale, hein, du fait de la contagiosité de ce variant Delta et du délai d'incubation plus court. Chaque personne infectée en contamine 2 autres. 100 nouveaux positifs le lundi, ça vous donne 1600 le lundi suivant, si bien sûr ces gens ne s'isolent pas. Les asymptomatiques eux aussi transmettent sans le savoir. Alors heureusement pour l'instant, et même s'il est reparti à la hausse depuis le 11 juillet, le nombre d'entrées à l'hôpital n'explose pas. Près de 7000 personnes hospitalisées pour Covid, dont 860 en réa. Au printemps, le pic était 3 fois supérieure. Même chose pour les réanimations et les décès. Alors bien sûr, ces chiffres vont mathématiquement grimper, mais la vaccination joue bien les pare-feux. On l'observe chez nos voisins. Plus la couverture vaccinale est élevée, plus elle contient les hospitalisations et les décès. C'est le cas en Italie, en Allemagne et au Portugal, où il y a 4% de vaccinés en plus que chez nous. Quant au Royaume-Uni, où la couverture vaccinale est bien meilleure, 11% en plus, et où on a 6 semaines d'avance dans l'immunité collective, le nombre de personnes infectées explose, où oui, 70 000 cas quotidiens, mais le nombre de formes graves est 10 fois moindre qu'au plus fort de la crise. Pour autant, le nombre de morts, autour de 10 depuis 3 mois chez nos voisins britanniques, était hier de 73, preuve que le virus n'a pas dit son dernier mot, la vigilance et les mesures barrières s'imposent.
Précision signée Sophie Becherel. Et face à cet emballement épidémique en France, le gouvernement pourra-t-il tenir les délais très courts qu'il s'est fixés pour son projet de loi sanitaire ? Extension du pass, vaccination obligatoire des soignants. Le débat a déjà pris beaucoup de retard à l'Assemblée nationale. Interrompu à minuit, il a repris ce matin à 9h. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Vous êtes à l'Assemblée pour France Inter, dans une ambiance toujours aussi tendue.
Oui, avec toujours l'agacement de l'opposition pour qui le gouvernement veut aller bien trop vite sans écouter le Parlement. Le communiste Alain Brunel.
On a un gouvernement qui dit c'est comme ça, il y a un décret, c'est pas autrement, c'est prévu. Mais à quoi on sert ? À quoi on sert ici ? Nous aussi, on a une situation de la réalité. Écoutez-nous, changez votre calendrier, écoutez les députés.
Sur le fond, beaucoup de questions ce matin sur l'application du pass sanitaire à l'extérieur, en terrasse ou activité physique. Émilie Cariou, ex-République En Marche.
On ne peut pas mettre en place des mesures qui sont incontrôlables. Personne ne pourra comprendre au cœur de l'été la manière dont on va appliquer ça. Donc au moins limitons le pass, faites en sorte qu'il soit au moins applicable dans une version raisonnable. Et donc excluons les activités d'extérieur.
Argument rejeté par le gouvernement qui évoque la contagiosité du variant Delta. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, voix cassée, passablement agacé lui aussi.
J'aimerais que vous soyez aussi énervé quand vous voyez le virus monter que quand on essaye de le freiner. Mesdames et messieurs les députés. J'aimerais le même engagement pour nous aider à prendre des mesures pour protéger les Français. Les mêmes vociférations que celles que vous faites aujourd'hui.
De l'énervement sur les bancs, vous l'entendez, alors que l'on avance très lentement, plus de 700 amendements restants et que la course contre la montre continue pour voter ce texte avant la fin de semaine. Assez improbable, me confiait tout à l'heure un sénateur.
Élodie Forêt en direct du Palais Bourbon avec Geoffrey Marianne pour les moyens techniques. Encore donc énormément d'amendements à étudier, vous le disiez. Parmi les rares adoptés depuis hier soir, l'un concerne les enfants de moins de 12 ans. Finalement, on ne leur demandera pas le pass sanitaire pour leurs déplacements internationaux. Et pour finir sur cette situation sanitaire, une bonne nouvelle quand même. Enfin, le retour à la quasi-normale dans les EHPAD. Un nouveau protocole entre en vigueur dans ces établissements pour personnes âgées. Et il n'y a désormais plus vraiment de restrictions spécifiques. Fini les rendez-vous obligatoires pour les visiteurs, les sorties sont complètement autorisées pour les résidents, tout comme les activités collectives. 83% des résidents d'EHPAD sont désormais vaccinés, mais c'est beaucoup moins pour le personnel. Soulagement prudent donc de Pierre Guabeau, il dirige 4 EHPAD publics dans le Loir-et-Cher.
Cet assouplissement complémentaire était pour nous un signal très fort. Le lien social, la vie affective, c'est ce qui fait de nous des êtres vivants, des êtres humains. Cette reprise-là de ce lien humain, de ce lien affectif avec les proches, il est indispensable, il est intrinsèquement lié à notre métier et à notre activité. Et on voit bien que là, la montée en puissance et la généralisation de la vaccination aussi à la population générale vient nous permettre d'avoir le moins de filtres possible, tout en étant très prudent, parce qu'on rappelle qu'il y a une circulation très active du virus. Régulièrement, il faut rappeler le message des gestes barrières. Donc aujourd'hui, nous, on a le devoir et la responsabilité de continuer la sensibilisation, à proposer à nos salariés la vaccination jusqu'au mois de septembre, avant qu'elle devienne complètement obligatoire. On a confiance en l'avenir, voire aussi confiance dans nos familles et dans nos résidents qui jouent le jeu de la vaccination, qui jouent le jeu du respect du port du masque. Et ces principes de base nous permettent de nous retrouver avec beaucoup plus de sérénité.
Pierre Guabeau, directeur d'EHPAD dans le centre de la France, il répondait à Thibault Lefebvre. Très grosse amende pour le géant des lunettes Luxottica, c'est le premier fournisseur mondial. 125 millions d'euros infligés par l'autorité de la concurrence pour avoir imposé des prix de vente aux opticiens français, leur avoir aussi interdit de vendre sur Internet. Deux autres groupes sont épinglés, LVMH et Chanel, avec des amendes toutefois beaucoup plus modestes. Et puisqu'on parle de gros sous, voilà un dispositif qui coûte nettement moins cher au gouvernement ces derniers temps. Les aides au logement, les APL, réformées depuis janvier. Désormais, pour calculer l'allocation, on se base sur les ressources des 12 derniers mois et non plus d'il y a 2 ans. La bascule a donc eu lieu en janvier. 6 mois plus tard, la ministre du Logement fait un premier bilan. Et Claire Chaudière, les économies sont au rendez-vous pour le gouvernement, au-delà même des espérances.
Plus d'1 milliard d'euros économisés par rapport à ce qui aurait été dépensé sans cette réforme du mode de calcul des APL. On est bien au-delà des prévisions de l'automne dernier, en clair. La réforme a fait plus de perdants que prévu. 30% des bénéficiaires environ ont vu leur allocation baisser en janvier, selon les chiffres publiés ce matin. Mais si les APL se sont ajustés globalement à la baisse, insiste le gouvernement, c'est bien que le niveau de vie des bénéficiaires a été moins impacté, lui aussi, que prévu par la crise sanitaire l'an dernier, du fait des mesures de soutien notamment. Un raisonnement qui ne convainc pas Eddy Jacquemart de la Confédération Nationale du Logement.
Depuis le départ, on sait que c'est une réforme budgétaire et ça confirme ce qu'on disait depuis le début. Donc moi j'appelle aujourd'hui la ministre Emmanuelle Wargon à revoir sa copie et moi je pense surtout aux jeunes qui ont vraiment perdu beaucoup d'APL. Certains ont même dû rendre leur appartement.
Alors les jeunes actifs grands perdants du nouveau système dans l'entourage de la ministre du Logement, on ne balaye pas complètement cette réalité, même si on estime que la réforme est malgré tout plus équitable, tout en soulignant qu'une aide à l'installation de 1000 euros leur est proposée via Action Logement, insuffisant au regard de l'ampleur des pertes pour les associations mobilisées sur ce dossier.
Claire Chaudière, service économie d'Inter. C'est une pollution parfois insidieuse, inconsciente, dont on parle beaucoup moins d'ailleurs que la pollution de l'air, par exemple. Et pourtant, il fait beaucoup de dégâts. Je veux parler du bruit, avec un chiffre qui interpelle. 156 milliards d'euros, c'est ce que coûte le bruit chaque année à la France, selon un rapport publié aujourd'hui par l'ADEME et le Conseil national du bruit. Stress, dépression, les nuisances sonores entraînent d'importantes dépenses de santé. Lauriane Rossi, députée LREM, préside le Conseil national du bruit.
Aujourd'hui, vous avez près de 9 millions de Français qui sont exposés à des seuils de bruit supérieurs aux seuils autorisés et qui donc se voient exposés à des risques réels, sérieux, en matière de santé par rapport à ce bruit-là. C'est contre cela que nous essayons de lutter. Et derrière, on va retrouver des maladies telles que la perturbation du sommeil, des maladies cardiovasculaires, de l'obésité, du diabète, des troubles de la concentration, de la santé mentale et bien d'autres pathologies que nous avons chiffrées. Il y a aussi un coût social, c'est-à-dire que vous avez d'une part un coût sanitaire, c'est-à-dire les consultations médicales, les traitements, l'hospitalisation, les arrêts maladie, les arrêts de travail, et puis un coût social qui concerne la perte de productivité liée à un environnement bruyant. Parce qu'évidemment, une personne exposée au bruit sera moins productive, donc ça a un impact sur la croissance. Ça a un impact aussi sur la valeur immobilière des logements, parce que quand on a un logement situé, par exemple, à côté d'un aéroport, il perd de sa valeur. On a chiffré ça également. Et puis également les mesures anti-bruit qui sont coûteuses. Par exemple, un mur anti-bruit coûte de l'argent à la puissance publique. On a intégré ce coût.
La députée Lauriane Rossi avec Marie Bernardo sur France Info. 33 morts, 8 disparus. Nouveau bilan encore provisoire dans le centre de la Chine après les inondations dévastatrices d'avant-hier. L'équivalent d'une année de pluie en 3 jours sur la capitale de cette région, Zhengzhou. Les habitants commencent tout juste à sortir et à évaluer l'ampleur des dégâts alors que la pluie continue de tomber à l'heure où l'on se parle. En Norvège, toutes les cloches du pays ont retenti à l'unisson ce midi. La Norvège se recueille 10 ans après la tuerie d'Utøya. 77 morts, des adolescents pour la plupart, dans un double attentat perpétré le 22 juillet 2011 par Anders Breivik. Ce jour-là, ce militant d'extrême droite faisait d'abord exploser une bombe dans le centre d'Oslo avant d'ouvrir le feu sur un rassemblement de la jeunesse travailliste. Les organisateurs des JO de Tokyo doivent commencer à se demander ce qu'ils ont fait pour mériter tout ça. Il y a bien sûr la situation sanitaire, 87 cas positifs dans la bulle olympique, et comme si cela ne suffisait pas, cette succession de scandales de dernière minute. Le directeur artistique de la cérémonie d'ouverture est limogé à la veille du spectacle pour une blague sur l'Holocauste remontant à une vingtaine d'années. Avant-hier, c'est le compositeur de la musique de la cérémonie qui a dû lui aussi démissionner. Et le sport dans tout cela, eh bien c'est du football aujourd'hui. Le tournoi de foot a déjà commencé, et très mal commencé en l'occurrence pour la France, Xavier Monferrand.
La France aurait pu espérer meilleure entrée dans ces Jeux Olympiques. Malgré la chaleur et la moiteur, ce fut la douche froide. 4-1, les Bleuets n'ont pas existé, ou si peu, dominés largement par des Mexicains mieux préparés et qui se connaissaient mieux, bien mieux que des Français rassemblés à la hâte, pas assez nombreux pour participer à ce tournoi olympique, que les clubs ont balayé d'un revers de la main en refusant de libérer leurs joueurs. Ce qui devait arriver arriva. Une équipe de France expérimentale menée par André-Pierre Gignac, le grand frère, revenu du Mexique justement pour aider la patrie. Mais la défense française a péché par sa jeunesse et a laissé des boulevards dignes d'un mois d'août à des Mexicains qui n'en demandaient pas tant. C'est bien mal parti pour ces Bleuets un peu pâles, dépassés un peu beaucoup même, et qui devront remettre leurs crampons à l'endroit face à l'Afrique du Sud et au Japon si d'aventure ils souhaitent prolonger leur séjour au jeu. Tokyo, Xavier Monferrand, France Inter.
Vous l'entendiez, il fait chaud à Tokyo, mais aussi en France. Pic de chaleur aujourd'hui dans le sud-ouest. Et en Bretagne, là c'est moins habituel, plus de 30 degrés dans la région. Alors les Rennais cherchent eux aussi un peu de fraîcheur aux étangs d'Apigné, à moins d'un quart d'heure du centre-ville.
C'est la plage des Rennais, quoi. Et donc moi je me suis dit, vous voyez, en passant là, le banc là il me paraît bien.
Il y a du soleil, de l'ombre, de l'eau, la paix.
Heureuse.
Voilà, heureux.
Il ne faut pas venir trop tard pour avoir sa place à l'ombre.
C'est vrai que c'est étouffant là. Mais là, avec ce petit vent, on est bien.
Bah, moi, c'est Julien, je suis nageur sauveteur.
Les gens viennent chercher quoi finalement ici ?
La fraîcheur, surtout, je pense, avec la baignade. Et puis le coin tranquille aussi quand même. C'est entouré d'arbres et c'est quand même un truc assez sympa.
Les Bretons aussi ont chaud. Témoignage recueilli par Alexis Vivier, France Bleu Armorique.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Il y a donc ce pic de chaleur aujourd'hui, mais c'est bientôt fini.
Oui, au niveau national, c'est la journée la plus chaude de la semaine, avec des températures qui vont grimper jusqu'à 37-38 degrés sur la moitié sud. On attend par exemple 36 degrés à Toulouse, à Mont-de-Marsan, à Carcassonne ou encore à Brignoles, 37 degrés à Uzès, 30 degrés pour Paris, Dijon, Orléans et Alençon, ou encore 31 degrés à Lyon et Aurillac. L'après-midi sera donc bien ensoleillé. On notera juste quelques petites averses isolées sur les Pyrénées et quelques grisailles côtières qui traîneront vers le Pays Basque et près du Delta du Rhône. Demain, une large moitié est bénéficiera encore du soleil et de la chaleur, mais les conditions vont devenir orageuses sur la Bretagne. On attend des vagues orageuses dès demain matin avec des orages qui pourront être particulièrement violents, notamment l'après-midi. De la grêle, de violentes rafales de vent et de fortes pluies sont à craindre. En soirée, ce sera au tour de l'Auvergne puis du Limousin de voir le temps tourner à l'orage. Ces orages progresseront durant la nuit vers la Bourgogne et le nord de la Seine.
Sébastien Léas de Météo France.